Bonjour à tous. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Non. Est-ce qu'ils m'entendent? Ah oui, là, un petit peu. Oui, c'est bon, maintenant? Oui, ça va mieux. Ok, merci beaucoup. Voilà, on va parler ce matin d'un personnage de la Bible vraiment intéressant. Il s'agit du roi Ézéchias. Vous vous dites pas, la dernière fois, il a parlé de roi Josias, maintenant, il veut continuer l'étude d'un personnage. Oui, effectivement, beaucoup de gens ont apprécié la dernière prédication. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Josias, il est mis au trône à l'âge de 8 ans, distingué par sa fidélité à Dieu. Il était vraiment considéré comme le meilleur de tous les rois. Je ne parle pas de David ni Salomon, mais parmi tous les autres rois, il était le meilleur, d'après la Bible. C'est vrai, il a restauré le temple, il a chassé toutes les idolâtries, il a fait revenir tout le peuple à la loi de Dieu, à la parole de Dieu. Et puis, il a institué de nouveau des cultes pour que le peuple puisse avoir une relation intime avec le Seigneur. Et c'était vraiment il a mis en place des réformes spirituelles et les gens ont pu vraiment revenir à travers ces actions. Oui, un seul homme a changé et tout le peuple avait changé. Eh bien, maintenant, ce matin, nous allons étudier sur le roi Ézéchiel. Ézéchiel, c'est qui ? Non, Ézéchiel. Ézéchiel, c'est le prophète qui est apparu 100 ans plus tard. Donc, pardon. Souvent, on confond avec Ézéchiel et Ézéchias. Ézéchias, voilà, le roi Ézéchias. Ézéchias, c'est l'arrière-grand-père de Josias. Et son histoire est pleine de rebondissements. Mais je reviens encore pour vous situer dans le contexte historique. Vous savez que le peuple, au début, quand ils ont été conduits et puis ils ont conquis le pays, le Canaan, ils ne voulaient plus avoir comme juge, comme leur leader, parce qu'ils voulaient avoir un roi. Et ils ne voulaient pas être dirigés par Dieu, mais dirigés par des hommes. Et c'est comme ça que Dieu met en place Saül, David, ainsi Salomon, et puis par la suite, le royaume, l'Israël, est divisé en deux par le royaume du Nord et le royaume du Sud. Il y a eu beaucoup de bons rois, beaucoup de mauvais rois. Et je vous avais dit que Josias était le meilleur roi. Après, on peut dire aussi Ézéchias. Oui, il se distingue particulièrement parmi tous les autres rois. Et en fait, si on regarde un petit peu le livre concernant les rois, vous savez, il y a à peu près 61 chapitres qui ont été consacrés pour parler de David. Donc on voit vraiment bien l'importance de cette figure emblématique où tous les rois veulent leur ressembler. Le roi David était vraiment une personne très importante. Et puis, après, c'est le roi Salomon, pour qui la Bible consacre 20 chapitres. Donc, c'est quand même important. On voit la sagesse, le temple, les richesses, les suites aussi spirituelles. Il y a vraiment beaucoup d'écritures de Salomon, sur la vie de Salomon. Et puis, il y a à peu près le troisième personnage qui reçoit plus de chapitres, il s'agit de Ézéchias. Oui, il a fait pas mal de choses. Donc, Ézéchias arrive au pouvoir après son père, qui s'appelle le roi Akaz, qui était un vrai désastre. Akaz avait plongé le pays dans l'idolâtrie, en oubliant Dieu et en adorant toutes sortes de fausses divinités. C'était vraiment une période sombre. Akaz avait un père pourtant, un Jotham, qui était un bon roi. Mais voilà, le père d'Ézéchias était un mauvais roi. À quel point, il a même sacrifié ses propres enfants, les faisant passer par le feu selon les coutumes. Il a érigé les autels païens. Il a aussi copié un autre autel qu'il a pu voir à Damas, donc chez les Syriens. Donc il a installé, il a vraiment fait pratiquer de l'idolâtrie, non seulement lui-même, mais aussi à tout le peuple. Vous vous rendez compte? Il a fait mourir ses propres enfants. Je lis dans 2 Rois 16, 3, où il est marqué « Il marcha dans la voie des rois d'Israël ». Et même il fit passer son fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Dans 2 Chroniques 28, 3, il est écrit « Il brûla des parfums dans la vallée des fils de Hinnom, et il fit passer ses fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. » Alors, à travers cette information, ce que nous pouvons apprendre, c'est que Ézéchias était un rescapé de tous ces sacrifices. Il était épargné des sacrifices d'enfants pratiqués par son père. C'est un survivant. Peut-être, en voyant son père agir ainsi, quand il a pris le trône, quand il a pris le pouvoir, il s'est dit, voilà, moi je veux faire autre chose. Je veux faire un choix radical, un choix qui va à l'encontre de tout ce que mon père a connu, peut-être. Ça vous est déjà arrivé d'avoir peut-être des parents qui n'ont pas forcément montré un bon exemple. Moi je vais vous parler un petit peu de mon père. Mon père était... Enfin... Je lui ressemble beaucoup. C'est un homme de paix. C'est un homme qui est très extraverti. Il aime bien être entouré par beaucoup, beaucoup de personnes. Ça, c'est pas moi. Il était gentil, très gentil. Sauf qu'il a un problème. Il avait un problème. Il gagnait beaucoup d'argent. Mais vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. Si on compare l'argent par rapport à aujourd'hui, je dirais qu'il gagnait à peu près 10 000 euros par mois. Donc vous vous rendez compte? Il gagnait extrêmement, beaucoup. Et tout cet argent, il le dépensait. Il était addict au jeu. Et donc, il jouait tiercé, loto et toutes sortes de jeux qu'il pouvait perdre en quelques heures des milliers d'euros. Ça, je l'ai vu devant moi. Je l'ai vu perdre des milliers d'euros, comment il faisait. J'ai vu ça. J'ai grandi en regardant mon père dépenser, mais dilapider autant d'argent possible. Il rapportait à la maison, si je compare un peu avec l'argent d'aujourd'hui, c'est à peu près 1000 euros. 1000 euros qu'il apporte. Heureusement, ma maman travaillait. C'est pour ça qu'on pouvait vivre sereinement et bien. Mais voilà, mon père était vraiment quelqu'un qui était addict au jeu. Alors, dans mon cœur intérieur, qu'est-ce que j'avais pensé en voyant cela? J'étais très mécontent. Il y avait une colère qui était là en moi. Mais Seigneur, mais pourquoi mon père est comme ça, quoi? Il est super gentil, il est un homme de paix, il est entouré des personnes. À chaque repas, c'est lui qui paye tout. Et donc, vous savez, à midi, il a au moins, vous savez, il avait à peu près trentaine d'employés. Et donc, allez, on va au resto, et puis c'est lui qui paye tout. Mais il ne fait rien pour la maison. Donc, j'étais vraiment en colère contre la gestion de l'argent, qui était irresponsable. Et donc, je n'ai jamais voulu faire comme lui. J'ai fait l'inverse, comme Ézéchias, J'ai fait l'inverse en voyant les mauvais côtés de mon père. J'ai voulu ressembler à ma maman, qui était super organisée, super bonne gérante. C'est pour ça que j'ai pu vraiment prendre l'autre chemin. En ce qui concerne les jeux, j'ai beaucoup aimé les jeux. Mais pas les jeux avec l'argent. Quand j'étais petit, j'avais mon ordi, mon premier Amstrad, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les années 80, 83, 84, je ne sais pas si, ceux de ma génération devraient connaître. Et dans cet ordi, ben, moi j'avais à peu près 500, 600 jeux. Donc je pouvais passer des heures et des heures entières. Pendant les vacances, je pouvais passer 3 jours entiers voilà, à faire les jeux du matin au soir. Et puis un jour, j'ai compris que je suis en train de devenir comme mon père. Et du jour au lendemain, quand j'ai compris, je me suis dit, ben, j'arrête tout. Et j'ai arrêté. Voilà. Peut-être que, voilà, Ézéchias, en voyant son père être idolâtre et même jusqu'à sacrifier ses propres enfants, il a dû se dire, ça, c'est pas mon truc. Je vais faire autre chose. Et il s'est tourné vers le Seigneur. Et puis, il faut aussi dire qu'il était bien entouré. À côté de lui, il y avait un prophète qui s'appelle Ézéchias. Ézéchias était un très très bon prophète qui lui donnait beaucoup de bons conseils. Qui était là, qui était un vrai prophète en lien avec le Seigneur. Peut-être aussi que c'est ce Ézéchias qui a pu peut-être l'influencer. Enfin, quoi qu'il en soit, ce que nous pouvons comprendre, c'est que même si nous avons grandi dans un environnement compliqué, que votre entourage ou des gens ne suivent pas Dieu, peut-être que vous pensez que votre passé détermine votre futur. Mais à travers l'histoire d'Ézéchias, cela nous prouve que, en fait, on peut briser ce cycle. On peut faire même un choix personnel, radical, de suivre le Seigneur, peu importe notre passé, peu importe notre environnement. Dieu peut se servir de nous pour ramener la lumière là où il y avait les ténèbres. Dès le début de son règne, Ézéchias ne perd pas de temps. Il veut remettre de l'ordre dans la vie spirituelle du pays. Il rouvre et répare le temple de Dieu. Il s'attaque directement aux lieux de culte païens. Il les détruit. Et surtout, il détruit donc tous les idoles. Et il détruit aussi un objet à l'origine venait de Dieu. Le serpent de bronze de Moïse. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, sachez que le peuple d'Israël traverse le désert après sa sortie d'Égypte et le peuple commence à se plaindre contre Dieu et contre Moïse en disant qu'on ne mange que toujours les mêmes choses, la manne et les écailles. Et ils se disent, mais voilà, on aimerait boire, on aimerait manger autre chose, et ils se plaignent. Et là, Dieu leur envoie des serpents brûlants parmi le peuple et beaucoup sont mordus et meurent. Et c'est à ce moment-là que le peuple se repent, comprenne et demande à Moïse d'intercéder auprès de Dieu. Et c'est à ce moment-là que Dieu dit à Moïse de fabriquer un serpent en bronze et de placer en haut d'une perche. Voilà, donc c'est, vous voyez là, le signe chez les pharmacies, hein. À la pharmacie, ce que nous pouvons voir. Tous ceux qui regardent le serpent de bronze, après avoir été mordus, sont guéris et survivent. Voilà, c'est un super, objet qui a une grande signification quand même. Bien sûr, ce n'est pas le serpent de bronze qui a sauvé. Mais plutôt l'obéissance et la foi que le peuple avait en Dieu. Mais le problème, c'est qu'avec le temps, les gens avaient commencé à l'adorer comme une idole. Ézéchias se rend compte de cette vérité, il le casse en morceaux pour montrer que rien ne doit prendre la place de Dieu, surtout dans le cœur de chacun. La Bible dit qu'Ézéchias a fait ce qui était juste aux yeux de l'Éternel, comme l'avait fait David, son ancêtre. C'est un grand compliment pour un roi. Il a remis le culte pur en place, il a nettoyé le temple, il a relancé la Pâque, une fête super importante pour les Juifs. Et puis cet Ézéchias tombe malade en l'an 701 avant Jésus-Christ. Un jour, en fait, À un moment donné, Ézéchias, le grand prophète, vient voir Ézéchias et lui annonce la mauvaise nouvelle de la part de Dieu en lui disant « Prépare-toi à mourir, tu ne guériras pas » dans 2 Rois 20. Imaginez un peu une sentence mort qui a été prononcée. Que ferez-vous? Est-ce que vous serez paniqué? Peut-être vous plaindrez, plaindrez? Ouais. Voilà. Ézéchias ici, lui ne se laisse pas abattre. Il se tourne vers Dieu. Il ne se tourne pas vers les médecins. Je ne dis pas que c'est mauvais. On a 6 médecins dans notre assemblée. Donc il fallait voir les médecins. Mais non, la première chose qu'il fait, dès qu'il entend, d'abord il se tourne, il se met devant le mur et il commence à prier. À prier avec humilité et foi. Là, il est dit dans 2 Rois 20, Ézéchias tourna son visage vers le mur et pria l'Éternel. Très important de prier l'Éternel. Ce n'était pas quelque chose c'était une prière sincère, une prière qui vient du fond du cœur, avec larmes. Et puis, il a vraiment exprimé à travers sa prière, en disant ainsi, « Souviens-toi, Éternel, que j'ai marché devant toi, avec fidélité, un cœur intègre, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Il n'est pas en train de vouloir marchander en disant « Seigneur, j'ai fait beaucoup de bien, donc sauve-moi ». Ce n'est pas ça qu'il est en train de dire. Mais il est en train de dire que « Seigneur, oui, j'ai été fidèle. Sauve-moi par ta grâce, par ta miséricorde. » Il demande vraiment la miséricorde de Dieu. Non pas parce qu'il mérite la guérison, mais parce que voilà, Dieu peut accorder sa miséricorde. À ce moment-là, Dieu répond. Dieu répond de nouveau à Ézéchias, mais vous savez, le prophète Ésaïe avait prononcé que Ézéchias allait mourir. Et puis là, il était en train de retourner chez lui. Ézéchias, je vous lis, dans 2 Rois 20, 4, 5, Ésaïe était sorti et n'avait pas encore atteint la cour du milieu, donc la cour du palais, que la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je te guérirai le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. » C'est super. Vous priez, et puis à l'instant même, le Seigneur répond à travers Ésaïe. Si vous étiez à la place d'Ézéchias, qu'est-ce que vous auriez pensé à ça? Vous auriez accepté ce message en comptant? Bah oui. Là, on dit, bah oui, j'aurais accepté. Bah oui, pas besoin de signe. En fait, Ézéchias demande un signe. Demande un signe. Intéressant. Dans 2 Rois 20, Ézéchias avait dit à Ésaïe, « À quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira ?» Il demande un signe, alors qu'il vient de dire que tu vas guérir. « Et que je monterai le troisième jour à la maison de l'Éternel. » Et Ésaïe dit, « Voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés ?» Ézéchias répondit, « C'est peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés, mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés. » Alors Ésaïe, le prophète, invoqua l'Éternel qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur les degrés d'Akaz où elle était descendue. Voilà. Dieu fait reculer même l'ombre. Il fait même réaliser, on a tout à l'heure chanté Dieu d'impossible. C'est quelque chose d'impossible.
On sait ce qui se passe dans l'univers. La Terre tourne autour du Soleil. Il y a aussi l'univers. Il y a des mouvements perpétuels. Et comment il peut faire en sorte que voilà, tout chamboule complètement pour que l'ombre recule de 10 degrés. Ben, apparemment, Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Moi, je le crois. Comme nous avons chanté, c'est un Dieu d'impossible qui réalise l'impossible. Et finalement, il reçoit la guérison. Dieu lui prolonge 15 ans de vie en plus. 15 ans de vie. L'histoire d'Ézéchias n'est pas parfaite. Elle est assez nuancée. Après avoir reçu cette grâce incroyable, donc 15 ans de vie en plus, un grand miracle aussi avec cette... comment on peut dire ça ? L'ombre du soleil qui a reculé de 10 degrés, Ézéchias, comment il a réagi? On peut voir ça dans 2 Chroniques 32, verset 25. Il est écrit, la Bible nous dit, « Mais Ézéchias ne fut pas reconnaissant pour le bienfait qu'il avait reçu. » Comment on peut ne pas être reconnaissant? Car son cœur s'enfla d'orgueil, et la colère de l'Éternel fut sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. Pour mieux comprendre cet épisode, pourquoi il est devenu orgueilleux? En fait, les Babyloniens entendent que ce roi Ézéchias était malade et guéri. Alors, les Babyloniens envoient des émissaires avec des cadeaux pour les féliciter, tout simplement. Et dans 2 Rois 20:13, Ézéchias donna audience aux envoyés et il leur montra le lieu où étaient ces choses de prix, l'argent, l'or, les aromates, l'huile précieuse, son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. C'est là où entre l'orgueil dans son cœur. Quand les messagers de Babylone viennent le féliciter pour sa guérison, Ézéchias, au lieu de rendre toute la gloire à Dieu, il leur montre avec imprudence toutes ses richesses, ses trésors, ses armes, sans rien cacher. Il est en train de montrer, faire une... comment on peut dire ça? Fanfaronner de ses biens en disant « Je suis riche, je suis puissant, voilà, maintenant je suis guéri. » Au lieu de rendre gloire. Et la conséquence de cet orgueil ont été annoncées par le prophète Ésaïe, en disant que ses propres descendants seraient emmenés en exil à Babylone et qu'ils allaient devenir eunuques. Daniel, par exemple, le prophète Daniel, qui va devenir aussi eunuque à Babylone. C'est un avertissement très fort par rapport à son orgueil. Même quand Dieu nous bénit, on n'est pas à l'abri de nos propres faiblesses et l'orgueil peut gâcher ou altérer les bénédictions. Parfois, on peut se réjouir, « Ouais, Seigneur m'a guéri vraiment. Waouh, j'ai expérimenté quelque chose d'extraordinaire que personne d'autre a expérimenté. J'ai eu même un songe. Waouh, super. Merci, Seigneur. » Sauf que, on oublie vite. Nous sommes tellement oublieux. On a tellement remercié dans le passé et puis finalement, maintenant, aujourd'hui, on oublie vite. C'est ce qui s'est passé avec Ézéchias. Bon, avec Ézéchias, ce qui est bien, c'est que lui, il se repent vite. Il s'est rattrapé, il a demandé pardon. Et le Seigneur l'a repris. Alors, pendant ses 15 ans de vie, il a eu un fils. un fils qui s'appelle Manassé. Et Manassé, lui, il monte au trône quand il avait 12 ans. Et il règne pendant 55 ans. Et c'était un des pires des rois. Il a vraiment tout transformé en idolâtrie. Voilà. Enfin bref. Je reviens encore pour conclure. Deux rois, chapitre 31, verset 20. Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai devant l'Éternel son Dieu. Je relis. Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai. Ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai. Si on compare avec l'hébreu, on a les mêmes significations dans d'autres versets. Vous savez, quand Samuel vient devant le Seigneur et que Dieu apparaît en songe à Gabaon, il lui dit, le Seigneur demande au roi Salomon, demande ce que tu veux que je te donne. Et là, il dit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Ces trois choses, fidélité, justice, droiture de cœur, en hébreu, il y a beaucoup de similitudes avec, parce que c'est une famille, ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai. Et d'ailleurs, la conclusion de ce qu'il a été Ézéchias, c'est « Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement, comme avait fait David son père. » Comme je vous avais dit tout à l'heure, l'objectif des bons rois en Israël, c'était de ressembler David. Et là, on voit vraiment les traits de caractère de David. Je vais conclure. Qu'est-ce qu'on retient de la vie d'Ézéchias pour aujourd'hui? Oui, malgré peut-être les circonstances difficiles, peu importe notre passé, notre famille ou l'ambiance autour de nous, on peut décider de suivre Dieu avec courage et honnêteté. Et puis, sachez que lorsque nous sommes vraiment dans la détresse, Dieu, à travers notre prière, réalise des choses incroyables. Oui, c'est un Dieu d'impossible, un Dieu qui réalise au-delà de ce que nous pensons. Et justement, lorsque nous expérimentons ce genre de choses, il faut faire attention que l'orgueil ne s'immisce pas dans notre cœur, qu'il nous corrompe et que qu'il nous tire vers l'intérieur, vers le bas. Mais vraiment, cherchons Dieu davantage et repentons-nous. Aujourd'hui, oui, on a vu tous ces bons rois voulant ressembler à David. Aujourd'hui, on a une opportunité énorme, encore plus grande qu'Ézéchias. Pourquoi? Parce que on n'a pas, dans notre connaissance, juste David, mais nous avons Jésus-Christ, notre guide parfait. Jésus-Christ qui est notre sauveur et notre roi. Et en plus de ce que Jésus a accompli sur la croix, on a aussi le Saint-Esprit qui vit en nous, qui nous montre le chemin et qui nous aide à voir nos erreurs et nous donne aussi la force de bien faire. Grâce à lui, notre cœur est transformé par Dieu, ce que nous rend capables d'aimer et de servir Dieu de tout notre être. Que le Seigneur vraiment nous bénisse, que nous puissions aussi nous souvenir pour réaliser toutes ces choses dans les semaines à venir. Pour info, il a aussi expérimenté autre chose. Ézéchias a connu un siège de la part de la puissance Assyrie. la Syrie, après avoir conquis plusieurs villes de Juda, marche vers Jérusalem. Et la capitale du royaume du Sud, donc Jérusalem, est complètement assaillie. Et puis, Assyrie envoie des généraux pour se moquer justement de ce peuple en disant que, capitule-toi, nie la puissance de Dieu, parce que le seul Dieu que vous servez, il ne fera rien pour vous. Et là, Ézéchias, de nouveau, cherche l'aide divine. Il prie encore. Vous savez, c'est vraiment très important. Quand nous sommes confrontés à des difficultés, se mettre dans la prière pour que le Seigneur nous révèle sa volonté. Il a demandé conseil. Et puis le prophète Ésaïe a prié aussi. Et ainsi, Dieu répond à la prière d'Ézéchias. Et pendant la nuit, un ange détruit une grande partie de l'armée assyrienne. Selon la Bible, environ 185 000 soldats ont péri. Voilà, le Seigneur, de manière encore miraculeuse, a sauvé l'Israël et aussi Ézéchias. Que nous puissions avoir cette bonne habitude de s'agenouiller devant le Seigneur, pas forcément devant le mur, mais on peut prier en conduisant, on peut regarder le ciel en marchant aussi et prier pour que ce Dieu grand, ce Dieu d'impossible, puisse intervenir de manière concrète dans notre vie personnelle. Amen. Je vous invite à la prière.